La chronique santé du lundi, un sujet pour les femmes cette semaine, mais évidemment, indirectement, ça touche les hommes aussi. Donc, on va parler des bouffées de chaleur en lien avec la ménopause. Allons tout de suite retrouver notre pharmacien Martin Bocage. Salut Martin!
Salut LP!
D'abord, ça peut commencer à quel âge ces bouffées de chaleur-là?
Ben aussitôt que 40 ans, il y a des femmes qui vont l'avoir un peu plus tôt. On parle à ce moment-là plus de ménopause précoce, mais à partir de 40 ans, c'est là que ça commence. Pour un âge moyen, entre 43 et 45 ans quand même. Donc, c'est quand même assez tôt là, par rapport à ce qu'on pense peut-être ou par rapport à ce que les personnes pensent.
La ménopause amène donc les bouffées de chaleur, mais il y a aussi d'autres symptômes.
En fait, les principales choses que les personnes pensent quand on parle de ménopause, on parle de bouffées de chaleur. Effectivement, en fait, 60 à 80 % des femmes vont subir, si on peut dire ça comme ça, de symptômes de bouffées de chaleur. Donc, c'est pas tout le monde quand même. Là. Donc, c'est pas anormal de voir si une femme n'aurait pas eu ces bouffées de chaleur. Dans le fond, donc, c'est pas normal que ça se présente quand même. Il peut y avoir aussi autres symptômes, en fait, comme tu disais, là, on parle, en fait, des troubles au niveau du sommeil qui sont engendrés, en fait, par la situation au niveau des bouffées de chaleur. Troubles de l'humeur aussi, ou même allant jusqu'à la vie sexuelle. Là, évidemment, les hormones, en fait, affectent la région de l'utérus aussi, ce qui fait que ça peut mener dans certains cas à la sécheresse au niveau vaginal. Il y a des produits qui sont utilisés pour ça, tant en vente libre là, que sous prescription également. Donc, au-delà des bouffées de chaleur, il y a quand même d'autres symptômes qui peuvent être influencés. On parle peut-être aussi de la libido aussi qui peut être là. Donc, ce n'est pas que les bouffées de chaleur pour ce qui est de la ménopause, évidemment.
Bon, quand on parle de la ménopause, quels sont les traitements à conseiller pour contrer ou pour atténuer ce phénomène-là?
Évidemment, le principal choix de traitement, là, c'est l'hormonothérapie qui est utilisée. Donc, on parle des produits en comprimé, prémarin, estrès. On parle aussi des thèmes, là, estradot, estalis. Il y a maintenant aussi des gels qui existent, qui s'appellent estrogel, qu'on applique sur la peau. C'est le traitement de base vraiment là-dedans. Les autres traitements qui existent, il existe d'autres traitements pour les femmes qui ne peuvent pas utiliser l'hormonothérapie parce que ils ont des antécédents familiaux, peut-être de cancer du sein ou de maladies cardiovasculaires ou de situations hépatiques là, au niveau du foie qui ont des difficultés ou des troubles de cholestérol. Donc, pour ces personnes-là, il existe certains antidépresseurs qu'on va utiliser, entre autres, mettons, l'Effexor, dont ils ont eu une reconnaissance là, à ce niveau-là, le gabapentin aussi qui est utilisé. Mais il faut s'entendre, dans le fond, que l'effet est quand même plus léger à ce niveau-là. Donc, peut-être un taux de succès beaucoup plus faible. Donc, les choix vraiment premiers, ça se trouve être l'hormonothérapie substitutive, là, qu'on prend prémarin. Puis, souvent, les gens vont l'associer aussi avec un autre hormonal, un autre agent hormonal qu'on appelle un progestatif. S'ils ont encore, en fait, leur utérus, donc on parle de Provera, Prometrium, c'est des produits qui sont utilisés en combinaison avec l'œstrogène, donc le prémarin en question, pour réduire les chances de troubles de l'endomètre, donc d'effets secondaires associés à l'œstrogène.
Pour revenir à l'hormonothérapie, tu en parlais là concernant le cancer du sein. Il y avait eu des avertissements dans le passé que ça pouvait peut-être augmenter les risques d'avoir un cancer du sein. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça fait une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Ou?
Oui, c'est ça. Ben moi, quand j'ai commencé, c'est tout récent, quand j'ai commencé à travailler comme pharmacien, une étude avait quand même changé vraiment le cours d'utilisation de l'hormonothérapie à ce moment-là. À l'époque, on utilisait l'hormonothérapie quasiment toute la vie durant. Là. Il n'y avait pas vraiment d'arrêt. Il y a 15 ans, il y a eu un avertissement qui a été émis d'augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes, en fait, qui prenaient l'hormonothérapie. On parlait à ce moment-là de plus de 5 ans. Donc, après plus de 5 ans de situation continue, on avait une augmentation du risque, peut-être à peine 1 ou en bas de 1%, ce qui était connu. Puis maintenant, aujourd'hui, ben évidemment, ça s'est éclairci depuis le temps. Puis là, maintenant, ce qu'on dit, c'est que on va le faire, il n'y a pas vraiment d'arrêt d'utilisation. Donc, on va vraiment individualiser le traitement en fonction des personnes, en fonction des femmes, à savoir est-ce qu'on peut se permettre de l'arrêter ou pas, est-ce qu'on a encore des symptômes qui en valent la peine d'être continués ou pas. Donc,
au fond, on pèse le pour et le contre.
Oui, on pèse le pour et le contre et on continue maintenant plus que 5 ans, évidemment avec un suivi peut-être plus étroit pour vérifier s'il n'y a pas apparition d'un effet indésirable important comme le cancer du sein potentiel. Donc oui, on peut peut-être réduire les doses aussi avec la plus faible dose possible. Il faut s'entendre que l'étude à l'époque avait été faite avec un dosage de 0,625 de prémarin par voie orale. Est-ce que les teintes, c'est la même chose? Est-ce que les doses plus faibles, c'est la même chose? Donc, c'est toutes des choses qui n'avaient pas été évaluées dans l'étude. C'est pour ça que maintenant, ça a été réajusté et qu'on peut se permettre d'utilisation un petit peu plus prolongée des produits.
Je comprends. Bien, merci beaucoup, Martin. Bonne semaine.
Ça fait plaisir. Bonne semaine.
Salut, à bientôt.
Au revoir.